Les résumés de livres de Nutri Happy by Cathy.
La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pee. Le principe de punition, récompense ou système 2.0 n'est plus viable au XXIe siècle. Pendant des siècles, on suppose que la motivation humaine a été régie par le système de la carotte ou du bâton. Ce dernier octroie à l'homme une motivation essentiellement biologique. Son comportement est guidé par son instinct de survie. Néanmoins, pour éviter une lutte entre les hommes animés par des pulsions nuisibles, une nouvelle conception de la motivation voit le jour au XIXe siècle. Il s'agit du système de motivation 2.0. Du XIXe au XXIe siècle, le système 2.0 permet d'expliquer ce qui motive l'homme à travailler. Ce dernier est animé par le désir d'être récompensé financièrement. Il s'efforce également de se conforter conformément aux règles établies pour éviter d'être puni et lésé. L'homme cherche la récompense tout en évitant la punition. L'Organisation scientifique du travail, l'OST, inventée par Taylor, illustre bien l'adaptation de l'entreprise à ce système. L'employé doit correctement effectuer sa tâche pour recevoir son salaire et l'estime de son supérieur. La fluidité de la chaîne de production dépend de son comportement. C'est pourquoi, s'il déroge aux règles établies, il est puni. Cette conception de la motivation humaine est dépassée, comme le prouve un certain nombre d'initiatives qui ont marqué le début des années 2000. L'être humain peut accomplir de grandes choses sans que l'argent ne soit sa motivation principale. Par exemple, la célèbre encyclopédie Wikipédia est conçue par des milliers d'anonymes non rémunérés. Gratuite et accessible à tous, elle casse les codes du système d'incitation. L'homme crée et produit pour le plaisir. Il cherche à s'épanouir pour des motifs personnels et intrinsèques. Il n'est plus motivé par le désir de satisfaire les objectifs de son patron. Ainsi, il convient, comme le préconise Douglas MacGregor, de rendre le travailleur plus autonome. L'homme travaille pour le plaisir de relever un défi, pour améliorer sa réputation et ses compétences. Le développement du For Benefit Organization, qui conjugue rentabilité et intérêt public, et celui des Big Corporations, qui veillent à se développer sur le long terme, est incompatible avec le système 2.0. Comme le souligne Daniel Kahneman, l'homme n'est pas qu'un simple calculateur qui cherche à maximiser sa richesse. Il peut agir de manière non rationnelle en privilégiant ce qui est juste et équitable. Le système 2.0 n'est plus en phase avec le XXIe siècle. Le travail n'est plus répétitif et ennuyeux. Il n'aboutit pas non plus à une solution unique. Devenu heuristique, il diffère d'un cahier des charges à suivre. Faisant appel à la créativité et à l'imagination, il demande davantage d'autonomie. De fait, il est incompatible avec le système 2.0 qui surveille et sanctionne quiconque déroge à la tâche routinière confiée. Une nouvelle conception capable d'envisager les vraies sources de la motivation humaine est nécessaire. La récompense réduit la créativité et l'implication tout en favorisant le raisonnement à court terme et mauvaise conduite. Il faut sortir du raisonnement selon lequel une récompense favorise une activité et une punition la décourage. Souvent, la carotte et le bâton produisent des effets néfastes, les motivations extrinsèques, primes, récompenses, etc., nuisent à la performance et à la créativité. C'est ce qu'on appelle l'effet Sauer. Savoir que l'on va recevoir une récompense transforme la tâche en besogne et diminue notre intérêt. La récompense réduit le champ de réflexion et l'implication. Elle n'améliore pas non plus la performance. Cette dernière n'est utile que lorsque le problème n'est pas d'un grand intérêt et peut être résolu de manière évidente, par exemple par du travail mécanique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la récompense ne favorise pas non plus la bonne conduite. Comme le démontre Richard Timsus, l'incitation pécuniaire dénature un acte au départ altruiste. Ainsi, les donneurs seront moins nombreux si l'on propose 6 euros en échange de leur sang que s'ils agissent bénévolement. Les récompenses conditionnelles octroyées sous certaines conditions ont des conséquences néfastes dans le cadre d'un travail créatif. Souvent, elles augmentent les dérives. Accoutumance, mauvaise conduite et raisonnement à court terme. Quand les objectifs sont décidés par d'autres que soi-même, on peut être tenté de faire le travail plus vite, de manière moins innovante, en prenant plus de risques et en coopérant moins. La motivation intrinsèque fonctionne différemment. L'activité est en elle-même la récompense. Pour atteindre le but fixé, il faut donc se comporter de manière juste, au risque de se causer du tort soi-même. La menace du bâton conduit parfois à l'augmentation du comportement sanctionné. Prenons un exemple. Venir chercher son enfant à l'heure à la crèche est une obligation morale. mais cet acte devient une pure transaction financière quand il suffit de s'acquitter d'une amende en cas de retard. La récompense extrinsèque agit également comme une drogue. À chaque fois que la tâche aura besoin d'être effectuée, elle nécessitera une récompense, et selon la théorie du principe agent d'Anton Suvorov, la personne motivée, l'agent, souhaitera à chaque fois être payée plus pour la même tâche, d'où le phénomène d'accoutumance. Enfin, la récompense favorise les objectifs à court terme, car l'agent accomplit le travail nécessaire sans voir plus loin que le bout de son nez. Il oublie de prendre en considération les effets à long terme. A posteriori, et sous forme de compliments ou d'informations spécifiques, la récompense peut être utile pour un travail non mécanique à condition de rester occasionnel. Dans certaines circonstances, et quand le salaire ou les primes sont justes et équitables, la récompense extrinsèque peut être efficace. C'est notamment le cas dans le cadre d'une activité mécanique où le travail consiste à suivre un déroulé précis de règles établies. La récompense est ici efficace car la tâche est ennuyeuse. Elle ne demande pas d'être passionnée pour être effectuée. Il y a peu de motivation intrinsèque dans l'activité elle-même. Dans ce cas, l'argent contribue à stimuler la productivité. La carotte est d'autant plus efficace si on fait comprendre aux travailleurs que la tâche confiée s'insère dans un large projet, qu'elle est ennuyeuse et requiert de ce fait une récompense, et qu'il pourra effectuer selon sa propre méthode en autonomie. Néanmoins, pour Teresa Amabile, il est possible d'encourager les activités créatives à l'aide de récompenses. Il faut tout d'abord faire comprendre que la tâche à effectuer est importante et qu'elle doit l'être le plus rapidement possible. La récompense ne doit cependant pas être octroyée dans n'importe quelle condition. La récompense doit constituer une véritable surprise pour le travailleur et ne doit être accordée qu'une fois le travail terminé. C'est une récompense a posteriori. À la différence d'une récompense conditionnelle, elle n'est pas ce pourquoi le travailleur doit accomplir la tâche. Mais il convient de faire attention avec ce genre de pratique. La récompense a posteriori doit conserver sa rareté. Le travailleur ne doit pas s'attendre à le recevoir systématiquement. D'autres récompenses non matérielles sont également possibles dans le cadre d'un travail créatif. Complimenter ou faire de retour augmente la motivation intrinsèque du travailleur. De la même manière, la récompense peut consister à donner une information utile ou valorisante. Expliquer précisément ce que l'on apprécie dans le travail revient à valoriser l'effort ou la méthode du travailleur, qui se sent alors maître et possesseur de son œuvre. Le comportement de type 1 est à plébisciter. Ses motivations intrinsèques, son goût pour le travail et les responsabilités naturelles. Selon la théorie de l'autodétermination développée par E. Stacy et R. Ryan, l'homme a trois besoins psychologiques pour être heureux, productif et motivé. Il doit entretenir des liens, être compétent et autonome. Lorsque ces conditions sont réunies, alors la motivation du troisième type, ou la réussite de la tâche, constitue la récompense intrinsèque qui anime l'homme, et surgit. M. Friedman et R. Rosenman opposent deux types de comportements. Le premier, nommé type A, caractérise les hommes compétiteurs, impatients, agressifs, qui vivent dans l'urgence. Les hommes regroupés sous le second comportement, type B, mènent une vie calme. Ils sont plus ambitieux et plus intelligents. Confiants et pleins d'assurance, ils sont moins en proie à des maladies cardiovasculaires. Le passage du type A au type B est donc enviable et souhaitable. Pour Douglas McGregor, l'homme aime naturellement le travail et aspire à exercer des responsabilités. Sa conception est à l'opposé de ce que pensent certains dirigeants d'entreprise qui considèrent l'aversion qu'a l'homme pour le travail comme inné. McGregor distingue lui aussi deux types de comportements, le type X et le type I. L'homme au type X a pour principale source de motivation des récompenses extrinsèques. Il travaille pour l'argent et la sécurité. Il a besoin d'être contrôlé. En ce sens, ce type rejoint le système de motivation 2.0. En revanche, l'homme du type 1 est animé par des désirs intrinsèques, comme le défi, la liberté, la finalité de l'entreprise. Le travail est pour lui naturel. Ce comportement acquis est caractéristique du troisième type de motivation. Pour renforcer ses performances et son organisation, l'entreprise a la possibilité de passer du comportement de type X à 1. Quand sa rémunération est juste, l'homme du type 1 a son esprit entièrement tourné vers son travail. Ce dernier lui procure une meilleure estime de lui-même, là où la santé psychologique du type X est plus souvent fragile, puisqu'étant omnibulé par la notoriété, l'honneur et l'argent. Essentiel dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, les chercheurs s'accordent sur la nécessité pour l'homme et les entreprises d'acquérir un comportement de type 1, favorisé par la motivation 3.0. L'autonomie dans l'emploi du temps, dans l'organisation des tâches et dans la gestion des projets est une composante essentielle de la productivité. L'un des trois éléments clés sur lequel repose la motivation 3.0 est l'autonomie. Cette dernière peut être favorisée par des entreprises de type ROW, Result Only Work Environment, inventée par Carly Ressler et Judy Thompson. Les employés n'ont pas d'horaire et n'ont aucune obligation à venir travailler. Les réunions sont facultatives. La seule chose qui leur est demandée est de faire leur travail dans les délais impartis. Seuls comptent les résultats. On remarque dans ce genre d'entreprise une hausse de la productivité et une diminution du stress. La liberté est donc plus efficace que les récompenses financières. Le management tel qu'il se pratique au XXIe siècle semble donc contraire à la nature humaine. Inventé au XIXe siècle et dépassé, selon Gary Hamel, il pourrait être à l'origine du manque de productivité des entreprises. L'homme est guidé et stimulé alors qu'il est, de manière innée, autonome et curieux. Quand le comportement est contrôlé, l'homme doit faire face à des pressions, des forces, des exigences externes. Or, quand on favorise un comportement autonome, l'homme devient plus persévérant, et bien dans sa peau parce qu'il fait ses propres choix. La productivité augmente et la rotation dans l'entreprise diminue. Pour que le comportement de type 1 voie le jour, il convient tout d'abord de laisser le travailleur consacrer 20% de son temps à un projet personnel. C'est ainsi que les post-it, Gmail ou encore Google News ont vu le jour. Il faut que l'employé puisse décider du moment où il travaille. La facturation à l'heure doit être abandonnée au profit de l'horaire forfaitaire. La meilleure solution est en l'absence d'horaire, comme dans les ROW. L'employé travaille de manière plus consciencieuse. Ce dernier doit également s'approprier ses activités en les traitant selon la méthode qu'il souhaite. Le télétravail permet ce genre de pratique car le contrôle y est moindre. Dans la mesure du possible, il est aussi important que l'employé participe à la constitution de l'équipe avec laquelle il travaille. Être autonome ne signifie pas être exempté de tout compte à rendre. L'employé est simplement maître de son temps, de ses tâches, de sa technique et du choix de ses coéquipiers. Si les dirigeants d'entreprise prennent conscience de la dimension naturellement autonome de l'homme, alors ils favoriseront un comportement de type 1. Le désir d'être toujours meilleur, d'apprendre de ses erreurs et de progresser dans l'adversité rend possible la quête de la maîtrise, véritable catalyseur de motivation. Au XXIe siècle, la concurrence est féroce. Les entreprises ont besoin d'hommes curieux qui savent expérimenter et trouver des solutions neuves. Loin d'être soumis, le travailleur doit être impliqué et animé par le désir de maîtrise. L'expérience satisfaisante pour tout être humain est le moment de flow. Ce dernier est souvent atteint au travail qui offre des expériences autotéliques. L'objectif est identifié, adapté et les retours sont immédiats. Parce que la tâche est équilibrée et ajustée à ses capacités, ni trop facile ni trop difficile, l'effort pour atteindre l'objectif fixé est en lui-même une récompense. L'implication des travailleurs dans la maîtrise des choses nouvelles favorise la productivité. Les entreprises innovantes proposent des tâches adaptées, source d'aucun ennui ni aucune anxiété, et laissent une liberté dans l'organisation du travail demandé. Si le flow est une sensation que l'on éprouve sur le moment, il n'en est pas de même pour la maîtrise. Elle s'acquiert lentement, et est avant tout un état d'esprit, selon Carol Dweck. L'intelligence peut être conçue comme une entité dont la qualité est définie. On ne peut pas la croître. Face à un adversaire, on désespérera si son intelligence est supérieure à la nôtre. Ce comportement qui fixe des objectifs de performance et perçoit l'effort comme une faiblesse est de type X. Mais l'intelligence peut être conçue comme une force physique que l'effort peut développer. On parle de théorie incrémentielle. Dans ce cas, face à un adversaire, l'échec contribuera à notre apprentissage et l'effort aura un effet positif, car il permet de progresser. Son comportement est de type 1. Il est le seul permettant la maîtrise. Cette dernière est un chemin difficile, une souffrance car les progrès ne sont pas toujours visibles. Il faut avoir conscience que l'effort donne un sens à notre existence et que c'est par lui qu'on atteindra le flow. La maîtrise peut être décrite comme une asymptote. Elle n'est jamais vraiment atteinte et provoque de la frustration. Mais on ne demande qu'à essayer de l'atteindre, et en ce sens, elle est une tentatrice. La maîtrise est magique. Elle vous attire parce que vous ne l'aurez jamais. Le système de motivation 2.0 néglige les clauses intrinsèques et se trouve incapable d'expliquer l'augmentation du bénévolat. Une nouvelle forme de motivation existe, la motivation 3.0. Les baby-boomers et la génération Y ne considèrent pas l'argent comme une finalité en soi. Le profit maximise la finalité, celle d'apprendre et de rendre la société meilleure grâce à leurs créations et inventions. Les étudiants d'Harvard ont imaginé le serment du MBA, véritable code de conduite. Les étudiants s'engagent à sauvegarder l'intérêt de l'actionnaire et à servir le bien commun en créant une valeur qu'ils n'auraient pas pu créer seuls. La vérité, la justice et l'honneur sont des idéaux qui doivent animer l'activité commerciale. La création de règles éthiques est à éviter car elles n'ajoutent aucune finalité. La motivation intrinsèque d'obéir à la morale diminue. L'employé n'agit que pour des motivations extrinsèques. Il souhaite éviter un procès ou une amende. Une autre idée préconçue est à bannir. Il n'existe pas de corrélation tangible entre l'argent et le bonheur. Pour être heureux, il suffit de dépenser autrement son argent, pour autrui ou pour une bonne cause. Il serait donc préférable que l'employé choisisse lui-même l'association caritative à laquelle il veut donner. Être satisfait, c'est aussi savoir fixer ses objectifs de finalité. Les objectifs de profit, tels que la célébrité, l'estime de soi, la richesse, n'ont que très peu d'impact sur le bien-être. Ils diminuent notre empathie et réduisent l'affection que l'on porte à autrui. Pour être brillant, motivé et performant, il convient de se laisser envahir par la motivation 3.0. Il faut pour cela être acteur de sa vie, ce qui permet l'autonomie, diversifier et augmenter ses capacités, ce que permet la recherche de la maîtrise, et donner un sens à son existence en poursuivant une finalité. Il est temps au XXIe siècle que les pratiques entrepreneuriales s'adaptent aux connaissances scientifiques. Les hypothèses concernant les sources de motivation de l'homme doivent être mises à jour au sein d'un nouveau système. À propos de leur entreprise, les employés doivent utiliser le pronom « nous » et non « ils ». Ils doivent œuvrer pour quelque chose qui leur tient à cœur, ils doivent s'engager pour une finalité qui les dépasse. Fixer des objectifs à sa portée et les adapter après auto-évaluation de ses progrès sont deux méthodes qui permettent de se motiver. Le comportement de type 1 s'acquiert. Voici donc quelques pistes pour éveiller votre motivation. Vous pouvez essayer de récapituler vos sensations de flow en notant ce que vous faisiez et avec qui et quand. Il est aussi intéressant de réfléchir à une phrase qui exprime ce qui compte pour vous, ce qui fait que vous vous levez le matin, le sourire aux lèvres. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, vous pouvez vous demander si vous avez fait mieux que la veille. Cela vous permettra d'établir des examens d'auto-évaluation dans lesquels vous ferez le point sur vos lacunes, vos erreurs et les efforts qui restent à fournir pour arriver à l'objectif final. Fixez-vous sans cesse de nouveaux objectifs, améliorez vos points faibles et surtout, persévérez. Cette méthode s'applique également pour rester motivé à faire du sport de manière autonome. Fixez-vous des objectifs intrinsèques en adéquation avec votre niveau. Vous souhaitez vous sentir mieux et rester en bonne santé? Pratiquez un sport en club avec des amis ou en famille pour qu'il vous procure des moments de flow. Engagez-vous publiquement à atteindre l'objectif fixé pour rester motivé. Le comportement de type 1 peut aussi servir à motiver vos enfants. Nombre d'entre eux, en grandissant, adoptent un comportement de type X car la pratique de l'école est en décalage avec les connaissances scientifiques sur la motivation. En tant que parent, vous devez d'abord vous interroger. Les devoirs demandés à mon enfant demandent-ils obéissance ou implication ? Vous devez envisager un bulletin scolaire comme une information sur sa progression. Poussez votre enfant à fixer ses propres objectifs d'apprentissage et à consacrer du temps à un projet qui lui tient à cœur. Votre enfant doit comprendre tout seul que la participation au ménage révèle de l'entraide familiale. Il ne sera pas payé pour avoir aspiré sa chambre. Enfin, complimentez ses efforts quand il entreprend des activités nouvelles ou difficiles et donnez-lui des informations utiles, précises et spécifiques pour progresser davantage. N'oubliez pas que les compliments doivent être sincères et suffisamment rares pour favoriser la maîtrise. La formule 10%, les audits d'autonomie, l'équilibre des équipes, le relâchement du contrôle et l'équité interne et externe des rémunérations sont de bons moyens pour favoriser la motivation 3.0. Vous pouvez transformer votre entreprise pour que vos employés adoptent un comportement de type 1. Pour booster la productivité, essayez 6 mois une formule 10%. Chaque semaine, vos employés doivent consacrer un après-midi de travail à un projet de leur choix. Vous pouvez même aller plus loin en laissant 24 heures de liberté créative dans l'obligation de présenter le lendemain un projet. Véritable défi pour les employés, cette initiative est aussi appelée FedEx Day. Pour connaître davantage le quotidien de vos salariés, vous pouvez réaliser un audit d'autonomie. Sur une échelle de 0 à 10, les employés évaluent leurs autonomies dans divers secteurs. Emploi du temps, gestion du temps et du travail, exercice de responsabilité, choix des collaborateurs. N'hésitez pas à relâcher le contrôle en poussant vos équipes à fixer elles-mêmes leurs objectifs en bannissant de votre vocabulaire les verbes « falloir » et « devoir ». en privilégiant le débat et en tenant une permanence pour faciliter l'expression spontanée des salariés. Veillez à ce que l'équipe créée soit équilibrée, regroupez des employés issus de formations différentes dans un espace hors compétition, où chacun collabore en vue d'une finalité commune autre qu'une récompense financière. Au XXIe siècle, vous devez être au-dessus des enjeux d'argent. Pour ce faire, il convient dès le départ de calibrer de manière juste et équitable les compensations, salaires, primes, etc. Les rémunérations doivent être proportionnelles entre les employés, mais aussi par rapport à ceux qui exercent des fonctions équivalentes dans des organisations concurrentes. On parle d'équité interne et externe. Ainsi, les montants de rémunération ne seront jamais remis en question. Elles ne monopoliseront pas les revendications salariales et ne seront pas source de démotivation. Dans la même optique, n'hésitez pas à payer plus que la moyenne. Non seulement les meilleurs talents seront attirés par votre entreprise et y resteront plus longtemps, mais ils auront aussi meilleure morale et seront plus productifs. Les employés seront performants et impliqués. Ils n'auront pas besoin de récompenses conditionnelles pour être motivés à travailler sur un projet. De la même manière, récompensez les objectifs atteints de manière modeste. Les employés utiliseront moins de méthodes frauduleuses. Ils chercheront à ce que l'entreprise prospère sur le long terme tout en donnant satisfaction aux clients. En conclusion, le monde de l'entreprise a changé. Une prise de conscience des dirigeants est nécessaire. Les récompenses conditionnelles et les contrôles des salariés sont des méthodes datées. Au XXIe siècle, le travail n'est plus mécanique. Il requiert de l'autonomie, de l'implication et un objectif plus global. Il est une occasion d'épanouissement personnel et une source de motivation intrinsèque. Ce qu'il faut retenir de ce livre, le principe de punition-récompense au système 2.0 n'est plus viable au XXIe siècle. La récompense réduit la créativité et l'implication tout en favorisant les raisonnements à court terme et les mauvaises conduites. A posteriori, et sous forme de compliments ou d'autres informations spécifiques, la récompense peut être utile pour un travail non mécanique à condition de rester occasionnel. Le comportement de type 1 est à plébisciter. Ses motivations sont intrinsèques, son goût pour le travail et les responsabilités est naturel. L'autonomie dans l'emploi du temps, dans l'organisation des tâches et dans la gestion des projets est une composante essentielle à la productivité. Le désir d'être toujours meilleur, d'apprendre de ses erreurs et de progresser dans l'adversité rend possible la quête de maîtrise, véritable catalyseur de motivation. L'homme doit donner un sens à ses activités en les insérant dans un projet qui les dépasse, la finalité. Fixer des objectifs à sa portée et les adapter après auto-évaluation et de ses progrès sont deux méthodes qui permettent de se motiver. La formule 10%, les audits d'autonomie, l'équilibre des équipes, le relâchement du contrôle et l'équité interne et externe des rémunérations sont un bon moyen pour favoriser la motivation. Vous avez aimé le contenu de ce résumé? Vous allez adorer le livre. N'hésitez pas à l'acheter chez un libraire indépendant. À bientôt !